VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce jeudi 8 octobre 2015. À la une ce soir.
La MONUSCO a-t-elle bombardé des civils en RDC? C'est l'accusation lancée par le gouverneur du Nord Kivu suite à une opération des casques bleus.
Un verdict de la Cour suprême du Rwanda semble ouvrir la voie à une nouvelle candidature de Paul Kagame à la présidence en 2017.
Si quand même nous allons jusqu'au référendum, nous appellerons tous nos partisans et tous les Rwandais qui ne veulent pas de cet amendement à voter non.
Nous irons à Kigali pour des réactions.
En Guinée, une décision sur la publication des résultats de la présidentielle du 11 octobre fait polémique.
Il n'y a aucun mal à ce que les résultats soient diffusés. Ça s'est passé par le passé en 2010.
Fodé Sanikaye Kouyaté, président de l'Association des blogueurs guinéens.
Migration en Europe, les États de l'Union disent non aux réfugiés économiques.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
En République démocratique du Congo, le gouverneur de la province du Nord Kivu, dans l'est du pays, accuse l'ONU d'avoir tué 5 civils. Une accusation faite suite à une attaque héliportée menée lundi par des casques bleus contre des rebelles. Jean-Roger Billon.
Le gouverneur Julien Paluku est formel dans un entretien à l'AFP. Les casques bleus ont, selon lui, pilonné un village composé essentiellement de civils et l'attaque a fait 5 morts. Charles Bambara, directeur de l'information publique de la MONUSCO, a déclaré à l'AFP que ces morts ne sont pas confirmés officiellement. Monsieur Bambara avait fait savoir mardi que la MONUSCO avait lancé la veille des opérations ciblées dans la région de Pinga pour stopper les exactions du groupe NDC, Nduma Defense of Congo, qui a brûlé des villages dans la zone depuis plusieurs jours. C'était une mission conjointe avec des responsables du gouvernement, a expliqué la MONUSCO sur son compte Twitter. C'est à cette fin, a ajouté M. Bambara, que les hélicoptères de combat sont entrés en jeu.
Par ailleurs, on connaît maintenant le remplaçant de Martin Kobler à la tête de la MONUSCO. Il s'agit du Nigérien Maman Sambo Sidikou.
Toujours en République démocratique du Congo, 13 organisations de la société civile lancent un appel urgent au gouvernement et à la Commission électorale nationale indépendante pour exiger la publication au plus vite d'un nouveau calendrier des élections et la révision du fichier électoral. Elles demandent également aux autorités de commander les kits électoraux et disent craindre que la CENI ne soit en mesure d'organiser la présidence en novembre 2016, conformément à la Constitution. Maître Sylvain, secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs.
Si on arrive au mois de février que rien n'est fait en termes de préparation des opérations électorales, principalement la révision du fichier électoral, ça veut dire qu'on n'aura pas les élections dans le délai constitutionnel. Parce que nous avons évalué techniquement, nous avons vu qu'il y a 7 scrutins qui doivent être organisés. Maintenant, les élections qui étaient prévues en 2015 n'auront pas lieu. Jusqu'en février, on doit capitaliser ce temps pour préparer tous les autres scrutins qui doivent l'être et les organiser. En février, si on ne l'a pas fait, on aura le retard dans l'acheminement, les déploiements des kits électoraux, les recrutements des agents pour l'organisation des élections. Et nous aurons donc presque le même problème qu'en 2011. Et on risque donc de ne pas avoir des élections, en tout cas si c'est forcé, pas de très bonnes élections et qui pourraient déboucher à des contestations.
Déclaration du secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs en RDC qui nous a été envoyée par notre station partenaire Top Congo FM.
Aucun article de la Constitution n'est immuable. Ainsi a statué la Cour suprême du Rwanda. La requête s'opposant à la réforme constitutionnelle qui permet au président sortant Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017 a donc été rejetée. Elle avait été introduite par le Parti démocratique vert du docteur Franck Habineza. De Kigali, le reportage de Maurice Magoran.
Les juges siégeant à la Cour suprême ont rejeté la demande du Parti vert. Pour eux, l'article 100 limitant le nombre de mandats présidentiels à 2 peut être modifié si la population le demande en l'exprimant lors d'un référendum. Le professeur Sam Lugege, président de la Cour suprême, motive sa décision de rejeter la requête du Parti vert en disant qu'elle manque de base légale. Ce parti dit ne pas apprécier la décision de la Cour suprême et ajoute qu'il compte faire campagne contre lors du référendum qui sera organisé. Docteur Franck Habineza, le président du Parti vert.
Nous demandons au président de la République de s'exprimer sur cette question. Car après la Cour suprême, c'est lui le principal défenseur de la Constitution, comme elle le prévoit en son article 92. Nous lui demandons également de ne pas déposer sa candidature. Comme nous le disons souvent, nous sommes contre la modification de la constitution rwandaise. Si quand même nous allons jusqu'au référendum, nous appellerons tous nos partisans et tous les Rwandais qui ne veulent pas de cet amendement à voter non.
Ce verdict tombe quelques temps après la mise en place d'une commission parlementaire qui devra aider le Parlement à rédiger les amendements de la constitution actuelle. Cette commission a reçu un délai de 4 mois. Maurice Magorané, VOA Afrique.
À noter que notre correspondant à Kigali a tenté, sans succès, d'obtenir le point de vue du gouvernement rwandais sur le verdict et la suite du processus.
Présidentiel au Bénin, le principal opposant au président Thomas Boni Yayi, Patrice Talon, est de retour à Cotonou après 2 ans d'exil. L'homme d'affaires a atterri à l'aéroport de Cotonou en fin de matinée en provenance d'Abidjan. Il a confirmé implicitement sa candidature au scrutin du 28 février. Cette question ne se pose plus, a déclaré Patrice Talon aux journalistes devant son domicile aujourd'hui.
Coup d'envoi de la campagne présidentielle demain en Côte d'Ivoire. Le président sortant Alassane Ouattara est un grand favori du scrutin prévu le 25 octobre. Il est à la tête d'une coalition comprenant son parti, le Rassemblement des Républicains. Et en face, l'opposition morcelée laisse planer des doutes sur sa participation. Le spectre de la crise post-électorale de 2010-2011 suscite bien des inquiétudes.
Et nous parlerons des élections en Guinée en deuxième partie d'émission. Le bilan continue de s'alourdir à Mina, près de la Mecque, où des centaines de pèlerins musulmans ont trouvé la mort dans une bousculade le mois dernier. Le Sénégal déplore désormais 54 victimes, 14 personnes sont portées disparues. Les recherches et les identifications se poursuivent. Nous reviendrons en partie magazine sur des pèlerins camerounais de retour dans leur pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de l'OTAN a critiqué l'escalade inquiétante des activités militaires de la Russie en Syrie au lendemain de tirs de missiles de croisière dans le cadre d'une campagne aérienne intensifiée contre les djihadistes et les rebelles. Nathalie Barge.
Jens Stoltenberg a fait ses commentaires ce jeudi à son arrivée à une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles, où l'intervention de la Russie dans la guerre en Syrie était à l'ordre du jour. La tension est montée d'un cran après les rapports cette semaine disant que des jets russes impliqués dans les raids en Syrie ont violé l'espace aérien de la Turquie, membre de l'alliance militaire dirigée par les États-Unis. L'OTAN est prête et apte à défendre tous les alliés, y compris la Turquie, contre les menaces, a déclaré M. Stoltenberg. Nous avons déjà répondu en augmentant notre capacité de déployer des forces, y compris au sud, y compris en Turquie, a-t-il ajouté. Lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion des ministres de la Défense, le patron de l'Alliance Atlantique a déclaré avoir exhorté la Russie à jouer un rôle productif en Syrie, soulignant que ces actions récentes comme la violation de l'espace aérien turc sont contre-productives. Une solution politique dans le conflit syrien est plus que jamais nécessaire, a-t-il dit, avant de préciser que l'OTAN a finalisé des plans pour une force d'intervention jusqu'à 40 000 troupes, soit 2 fois la taille actuelle, et des nouveaux bureaux du siège de l'OTAN en Hongrie et en Slovaquie.
Les affrontements continuent entre Palestiniens et Israéliens, suscitant des réactions de colère dans les deux camps. Dernière en date, celle du patron de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi, qui a qualifié d'agressive et raciste l'attitude d'Israël à l'égard des Palestiniens. Un Palestinien a été tué aujourd'hui par des tirs des forces de sécurité israéliennes dans un camp de réfugiés de Jérusalem-Est, rapporte l'AFP citant le Croissant Rouge. 4 Israéliens et 7 Palestiniens, dont 4 agresseurs présumés, sont morts depuis le début des violences. Les blessés sont au nombre de plus de 400.
Crise migratoire en Europe, l'Union européenne a décidé de refouler désormais tous ceux qui émigrent pour des raisons économiques. Les 28 pays membres ont adopté cette mesure aujourd'hui, un jour avant le début d'un programme de répartition des demandeurs d'asile. En tout, 160 000 migrants seront relocalisés au sein de l'Union en vertu d'un accord conclu récemment à Bruxelles.
Le chef des forces américaines en Afghanistan a répété ce jeudi que le bombardement samedi d'un hôpital de Médecins sans frontières à Kunduz était dû à une erreur. « Nous ne prenons pas pour cible les hôpitaux », a déclaré le général John Campbell devant une commission de la Chambre des représentants à Washington. Le bombardement a fait au moins 22 morts, dont 12 parmi le personnel soignant de Médecins sans frontières. Selon l'AFP, l'ONG ignore encore le sort de 9 patients et de 24 employés de l'hôpital.
Pour la deuxième fois en 5 ans, la Cour pénale internationale tente d'ouvrir une enquête sur les accusations de crimes de guerre commis durant le conflit de 2008 entre la Russie et l'ancienne République soviétique de Géorgie. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a fait part de son intention à une chambre préliminaire de 3 membres. En cas d'adoption, ce serait la première enquête de ce genre en dehors du continent africain.
Une journaliste du Bélarus, Svetlana Alexievitch, a reçu le prix Nobel de littérature 2015. En lui décernant cette distinction, le jury a fait mention de ses écrits polyphoniques qu'il qualifie de monument à la souffrance et au courage pour notre époque. Alexievitch a écrit des ouvrages sur l'impact humain de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la guerre en Afghanistan et l'histoire des périodes soviétiques et post-soviétiques. En 1985, elle avait publié un essai fait de monologues de 200 femmes qui ont combattu durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Le rapport biannuel du FMI vient de paraître. Le continent enregistre une révision à la baisse de ses prévisions de croissance pour 2015 comme pour 2016, conséquence de la chute des cours des matières premières et du ralentissement de l'économie chinoise. Mais quelques pays tirent leur épingle du jeu. La République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Mozambique et la Tanzanie devraient enregistrer une croissance supérieure à 7% pour la même période. Le fonds d'investissement américain KKR confirme son grand intérêt pour l'Afrique. L'année dernière, il injectait près de 200 millions de dollars dans une société basée en Éthiopie. Aujourd'hui, c'est 100 millions de dollars qui seront injectés dans une société nigériane. Le Nigeria servirait de base arrière au fonds qui prévoit de rayonner dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le siège de l'Organisation internationale pour le cacao, l'ICO, quitte Londres pour Abidjan. La Côte d'Ivoire produit 45% de la récolte mondiale de cacao. L'ICO, qui a annoncé l'ouverture d'un centre de formation et un musée du cacao à Abidjan, devrait permettre aux Ivoiriens d'accéder à des statistiques sur les récoltes ainsi qu'à des analyses fouillées du marché du cacao. Selon l'ICO, la campagne cacaoyère mondiale 2015-2016 devrait produire 4,25 millions de tonnes, en légère augmentation par rapport à la campagne précédente.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie.
Devine qui est en studio pour les sports ?
Eric et Gabi.
Eric Manirakiza, bonsoir. Football, un Africain à la tête de la FIFA dans l'histoire du football, même si ce n'est pas de façon permanente.
Oui, Gabi, c'est le Camerounais Issa Ayatou, patron du football africain CAF, l'instance suprême du foot mondial, l'a désigné aujourd'hui, jeudi, président par intérim de la FIFA après la suspension de 90 jours de Joseph Blatter. Issa Ayatou est aussi président de la commission des finances de la FIFA. Il n'est pas étranger dans ce club.
Mais les pouvoirs de M. Ayatou sont très limités.
Exactement. Il n'a pas le droit de représenter la FIFA de quelque manière que ce soit, ni d'agir en son nom pour une durée de 90 jours de son intérim.
Alors Eric, il faut signaler aussi que l'un des principaux prétendants à la succession à la tête de la FIFA, je veux parler de Michel Platini de l'UEFA, il a été également suspendu pour 90 jours.
Absolument.
Un procès contre la star argentine du FC Barcelone.
Oui, Lionel Messi sera jugé prochainement pour fraude fiscale à Villanova 1, la Gelutru, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Barcelone. Et Messi et son père, Roge Horacio Messi Pérez, risquent 7 mois et demi de prison chacun. Et à une amende, Gabi, d'un montant comparable à celui de la fraude. Et toutefois, il est rare que les peines de prison inférieures à 2 ans soient mises à exécution en Espagne. Et très à l'aise financièrement, Messi, avec des revenus annuels de 47,28 millions d'euros, il n'aura pas de difficulté à rembourser 4,16 millions d'euros de taxes dont il ne se serait pas acquitté.
Enfin, l'Afrique du Sud fait honneur au continent africain dans la Coupe du Monde de rugby.
Oui, porté par Brian Abana en verve, le pays de Mandela a validé son billet pour les quarts de finale en ne faisant qu'une bouchée de pauvres Américains. 64-0, Gabi, un score très lourd, mercredi à Londres.
Merci Eric Manirakiza pour cette page sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorcil et Morgane Guériac en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, la Guinée.
Et on parle de la présidentielle. La haute autorité de la communication a interdit l'annonce ou la publication des résultats du scrutin du 11 octobre avant leur proclamation par la Commission électorale nationale indépendante. L'interdiction concerne tous les médias, l'Office guinéen de publicité ainsi que les opérateurs de téléphonie. Une décision rejetée tant par la classe politique que les professionnels des médias. Jacques Aristide a recueilli les réactions du président de l'association des blogueurs guinéens, Fodé Sanikaï Kouyaté.
Les décisions prises ces derniers jours, notamment pendant la période de campagne, venant de la HAC, consistaient à museler la presse. Il n'y a aucun mal à ce que les résultats soient diffusés. Ça s'est passé par le passé. En 2010, les élections, il y avait plus de tensions. C'était la même chose, ça a été diffusé, ça n'a pas créé de problème. Les élections législatives, ça a été diffusé dans les radios, ça n'a pas créé de problème. Le code électoral le dit immédiatement après le dépouillement que le président du bureau de vote doit rendre public le procès verbal et doit afficher une copie devant le bureau de vote. Tout le monde peut communiquer dessus. Donc ça n'a absolument pas de sens, c'est simplement liberticide. Donc ce n'est pas du tout légal, c'est un engagement qu'ils ont pris avec les autres médias.
Mais voilà ce que dit l'article 11 de la décision prise le 19 septembre par la HAC. Après la fermeture du dernier bureau de vote et jusqu'à la proclamation des résultats provisoires par la CENI, aucun organe de presse ni l'OGP n'est autorisé à communiquer un résultat quelconque à travers un quelconque support. Ne pensez-vous pas que vous allez défier la décision de la HAC?
Non, ce n'est pas une décision démocratique, ce n'est pas une décision qui contribue à la liberté de la presse. Au contraire, ceux qui pensent être de problème, c'est eux qui vont créer des problèmes parce que quand les gens n'ont pas de bonnes informations, c'est les rumeurs qui vont prendre le dessus. Seule la CENI qui compile les résultats. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire que dans un bureau de vote ou qu'on peut rester, faire des élections et attendre que la CENI diffuse les résultats. Alors que les citoyens qui sont dans les quartiers, qui sont tous des médias qui peuvent diffuser à des milliers de personnes qu'eux, ils ne communiquent pas le résultat de leur bureau de vote. Nous ne vont pas à l'encontre des décisions de la HAC, mais c'est une décision légale que les procès-verbaux soient rendus publics. C'est là qu'il faut placer le débat. Ça, c'est le code électoral qui le dit, en son article 82. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et les médias qui ont souscrit au programme de la HAC, ils peuvent discuter avec ceux-ci. Et parce qu'eux, ils ont accepté d'être muselés. Nous sommes dans une démarche citoyenne. Nous sommes là pour promouvoir la paix. Et c'est pourquoi nous sommes impliqués dans le processus électoral pour la transparence. Il ne s'agit pas de museler la presse parce qu'ils ne peuvent même pas, dans la mesure où les citoyens eux-mêmes, chaque individu est devenu un média. Chacun a un téléphone. Donc, à moins qu'ils donnent une autre image de la Guinée, qu'ils coupent tous les moyens de communication. Sinon, ça n'a aucun sens. Vous pouvez interdire aux médias de ne pas diffuser. Mais qu'en est-il des citoyens? Ils le feront.
Fodé Sanikaï Kouyaté, président de l'association des blogueurs guinéens, joint à Conakry.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur l'élection présidentielle de dimanche en Guinée. L'ambiance est tendue dans le pays après les affrontements meurtriers le week-end dernier à Nzéré Coré entre partisans du président Alpha Condé et sympathisants de son rival Seydou d'Alain Diallo. Que faire pour consolider la démocratie 5 ans après les premières élections libres en 2010? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Nous partons maintenant au Tchad. Les syndicats des travailleurs du secteur public grognent à cause de la crise financière que traverse le pays. Du coup, le gouvernement a organisé hier et aujourd'hui une rencontre de réflexion sur la stratégie de mobilisation des ressources et de maîtrise des dépenses publiques. Les membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers du Tchad étaient convoqués. On fait le point avec André Koumadjingar.
Le Tchad traverse une crise financière pour trois raisons principales. La chute du prix de baril du pétrole, son intervention au Mali qui a coûté 200 milliards de francs CFA et son engagement militaire contre le groupe d'État islamique ex-Boko Haram qui se chiffre à environ 12 milliards de francs CFA par mois. Situation qui ne permet pas à l'État tchadien de payer le salaire des fonctionnaires à terme échu, la bourse des étudiants, les pensions de retraités et de verser les subsides des maîtres communautaires. Cette rencontre de deux jours a débouché sur l'application d'une feuille de route visant entre entre autres, à supprimer les lignes téléphoniques de l'administration à l'international, de suspendre les évacuations sanitaires et de réduire de 50% les indemnités des membres des institutions de la République pour les trois derniers mois. Ngarlena Dogjengar est le ministre des Finances et du Budget.
Les indemnités de vos cadres d'État, c'est une question qui a fait beaucoup de débats. Mais au niveau du gouvernement, nous nous sommes dit c'est un geste qu'il faut le faire pour faire comprendre à l'opinion quelles sont les difficultés où nous sommes confrontés. Au titre de l'année 2014, nous avions dépensé 2,4 milliards pour les évacuations sanitaires. Il était question de limiter, surtout pour les cas d'urgence, et en cas de besoin, faire recours à nos structures sanitaires de la place.
Cette panoplie de textes contenus dans cette feuille de route est une imposition du gouvernement, estime Aladoum Balthazar Djarma, porte-parole adjoint de la Convention pour le changement et l'alternance démocratique.
On pensait à faire des commissions pour que les gens s'expriment librement et prennent des décisions conséquentes. Malheureusement, nous sommes rendus compte qu'on a été devant un dictat, des résolutions d'une feuille de route qui n'ont pas été adoptées, mais pratiquement imposées, parce que la majorité de l'Assemblée n'a pas été entendu. Nous sommes en train de jouer au médecin après la mort. Donc en ce moment, toutes ces mesures prises, leur application posera un problème.
Pour le Premier ministre Kalzebe Paimi Debe, l'adoption de cette feuille de route est un pari gagné pour le gouvernement.
Ce qui importe pour nous, c'est la définition des actions issues de l'épreuve de vérité que nous nous sommes imposées, les résultats encourageants auxquels nous sommes parvenus, nous détermine davantage à l'amélioration continue de notre gouvernance financière, sous-entendu par les principes de rigueur dans la gestion de la fortune publique.
Une commission a été mise en place pour suivre l'application intégrale de cette feuille de route pour permettre de réduire le train de vie de l'État, mais aussi d'avoir des ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements. André Kodumadjingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Retour au bercail pour les pèlerins camerounais qui s'étaient rendus à la Mecque. Des contingents arrivent au pays avec un sentiment mitigé dû à la bousculade de Mina en Arabie Saoudite qui avait causé la mort d'environ 800 pèlerins, dont 21 camerounais. Les pèlerins qui ont été chaleureusement accueillis par les autorités et leurs proches disent avoir accompli un devoir spirituel malgré le malheur qui a frappé leurs compagnons de voyage, dont certains n'ont pas encore été retrouvés. Le reportage à Yaoundé de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
Ambiance bon enfant à l'aéroport international de Garoua. Le premier contingent de pèlerins camerounais bénit Allah qui les a protégés contre la bousculade qui a endigué de nombreuses familles pendant leur séjour d'un mois à la Mecque.
On remercie le bon Dieu beaucoup parce qu'on a souffert, mais Dieu merci, on est rentré.
Nous avons voyagé, on a beaucoup risqué, mais on est rentré. Dieu merci.
On a bien voyagé comme partout, tous les groupes là. Il n'y a aucun groupe qui n'a pas perdu sa personne. Ce n'est que notre groupe. On remercie au bon Dieu.
Les nouveaux Aladji et Adja sont contents de retrouver leur famille, mais avec un pincement au cœur lié au malheur qui a frappé les compagnons de voyage.
Moi-même, j'étais tombée, c'était grave, grave, très grave. Vraiment, on a eu la chance, mais je suis tout blessé.
L'accident-là est arrivé comme ça, on ne sait même pas. C'est comme un mystère, mais on ne sait pas c'est quoi qui a tué les gens là-bas, on ne sait même pas. Parce que devant nous et derrière nous, nous, on était au milieu, nous sommes sortis.
Nous étions au milieu de ce qui s'est passé. C'est quelque chose vraiment pas bien. C'est l'étouffement, le soleil, 47 degrés, et puis aussi tout le monde sur une même rue, et voilà, c'est ça qui a causé ça.
Les autorités camerounaises se sont mobilisées pour l'événement. Le gouverneur du Nord est à l'aéroport pour les accueillir. Jean Abate Eddy est cependant habité par un sentiment mitigé.
Nous ne pouvons que nous réjouir comme un père qui accueille ses enfants qui étaient partis en voyage et qui reviennent à la maison. Mais en même temps, nous ne pouvons pas être insensibles à tous ces événements malheureux.
Environ 5000 Camerounais ont pris part au pèlerinage à la Mecque. Les autorités saoudiennes parlent de 41 morts alors que le gouvernement camerounais parle de 21. 70 de ces pèlerins ont été déclarés disparus. Moki, Edwin Kinzeka, Yaoundé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Nous l'avons dit en sport, Issa Hayatou, patron du football africain, était désigné président par intérim de la FIFA. C'est après la suspension de 90 jours prise jeudi par la commission d'éthique de la FIFA contre Joseph Blatter, président des missionnaires, et Michel Platini, président de l'Union européenne de football et principal candidat à sa succession. Pour réaction, Eric Manerakiza a joint Tarsis Arerimana, journaliste ayant couvert plusieurs événements sportifs et membre du comité exécutif de l'Association mondiale des journalistes olympiques.
C'est un honneur pour l'Afrique. Il est vrai que Lamine Diack vient de quitter la Fédération internationale d'athlétisme après aussi un règne important où il a montré sa qualité d'homme africain. Et on croit savoir que parmi le plus sage, le plus perturbé aussi, celui qui a été plus ou moins dans l'ombre de ce scandale serait évidemment Issa Hayatou, qui est là depuis 1988, 27 ans, 5 places à la Coupe du Monde. C'est son palmarès. Il a créé aussi la CHAN, le championnat d'Afrique des locaux. C'est le plus ancien, mais il faut aussi dire que c'est une confédération et peut-être l'une des plus pauvres du monde du football.
Justement, il hérite une institution qui est dans la tourmente, le football mondial dans la tourmente. Est-ce que vous pensez qu'il pourra relever les défis?
Je l'ai rencontré récemment au championnat du monde d'athlétisme de Beijing. Je l'ai trouvé un peu fatigué, mais il a le temps de reprendre l'esprit et essayer d'être à côté de ce vent qui souffle. Parce que l'essentiel pour la FIFA, pour le monde du football, c'est que cette institution quand même soit sauvée, malgré de nombreux scandales dont on parle actuellement. C'est une institution qui génère de l'argent. La Suisse elle-même a intérêt de préserver la FIFA. Les grands sponsors américains qui financent la FIFA, même les firmes, même les gouvernements qui crient scandale, ont intérêt à ce que la FIFA soit sauvée et que le football mondial puisse quand même fonctionner. Bah, il faut compter que, et dire que la FIFA quand même gère un sport qui est le plus populaire du monde. Et donc, on voit mal comment l'institution peut tomber.
Platini, qui était pressenti comme le véritable successeur de Blatter, il est aussi atteint. On voit Issa Hayatou, qui est maintenant porté à la tête de la FIFA. Il ne serait pas non plus en dehors de ce scandale. Comment analyser toutes ces contradictions?
Quand on parle de Platini, quand on parle de Hayatou, quand on parle également de Blatter, c'est qu'ils étaient ensemble. Donc, en fait, ces grands dirigeants du football, je pense qu'ils n'ont pas eu l'occasion de prévoir l'avenir comme l'a fait le CIO, le Comité international olympique, qui a connu aussi des scandales du genre, de précéder ce vent qui est en train de souffler l'institution en mettant en place, et au niveau des continents, des mécanismes de gestion et également des commissions d'éthique valables.
Tarsis Harerimana, membre du comité exécutif de l'Association mondiale des journalistes olympiques.
Les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde ce soir, Yemi Obadjimi, présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
On remercie Zorniak à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia Burkina Faso
et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.